ma préférence, Irène Finkel.
Jacques Lavergne.
Bonsoir. Bonjour. Ma préférence, le magazine culturel d'Esprit Occitanie.
Bienvenue à toutes et à tous dans Ma préférence sur Esprit Occitanie. Alors nous allons parler ce soir, nous allons parler théâtre, nous allons parler de livres, donc de littérature, littérature occitane et littérature française. Nous parlerons de séries et de cinéma, tout ça dans le désordre. Voilà, c'est Ma préférence et c'est tout de suite. Et nous allons commencer par le théâtre ce soir. Notre amie Chloé est de spectacle. Elle joue ce soir, donc elle n'est pas auprès de nous. Mais je vous propose d'écouter une interview que j'ai fait hier soir assez tard avec Nathalie Boileau, qui sera avec nous dès vendredi soir. On l'écoute et on en reparle juste après. Nathalie Boileau.
Nathalie Boileau, bonsoir. Il est tard, mais merci de m'avoir joint, ne serait-ce que par téléphone, après une journée que je sais être extrêmement chargée. Alors, vous êtes comédienne, théâtre, cinéma. Je sais que vous êtes aussi chanteuse et danseuse. Vous avez tourné dans énormément de films. J'ai vu votre biographie qui est assez impressionnante.
Eh bien, je suis une artiste multifacette. Et c'est vrai que là, j'ai eu une journée, d'ailleurs vous l'entendez à ma voix, un peu chargée, puisque je joue demain au Théâtre du Gymnase à Paris. Et donc, je sors du théâtre pour la répétition technique. Mais je suis heureuse d'être au téléphone avec vous. Et je suis tellement ravie de venir à Toulouse,
voilà.
La ville rose que j'avais découvert quand j'étais une toute jeune fille. Et je m'appelle Nathalie et il y avait des petits clins d'œil avec... la chanson, voilà. En tous les cas, j'adore Toulouse et je me dis que vivre à Toulouse, ça doit être génial en fait.
C'est pas désagréable pour avoir fait Paris puis Toulouse. J'avoue que je suis pas trop mal à Toulouse. Alors vous venez nous voir. D'ailleurs, vous venez au théâtre du la Comédie de Toulouse. On y reviendra tout à l'heure et on donnera l'adresse. Mais je peux d'ores et déjà la donner. C'est 16 rue Saint-Germier. Ce sera vendredi prochain, donc vendredi 18 mars, et à 20h30, vous allez faire un seul en scène ou un one-man show, comme l'on dit quand on parle bien, c'est ça?
On dit même one-woman show, et quand on parle français, on dit un seul en scène.
Voilà.
Mais c'est vrai que c'est une performance. En fait, ce goût m'est venu, je pense, toute petite, quand j'arpentais les planches des théâtres où j'étais petite danseuse. Et puis, en fait, surtout, j'ai joué avec Smaïn dans les Fourberies de Scapin, où je jouais Zerbinette, le rôle féminin de la pièce, celle qui rigole tout le temps, là, qui a un rire très généreux. Et donc, on avait même joué à Toulouse, d'ailleurs. Et en fait, Smaïn... me disait, Nathalie, tu as un ticket avec le public, tu fais un vrai carton, tu devrais faire un seul en scène. Mais je me disais, non, il est fou. Et en fait, je m'y suis attelée. Et c'est vrai que j'adore être sur scène et partager avec le public, parce que c'est un exercice qui est vraiment très particulier. C'est une performance, mais quel bonheur. C'est un partage, c'est de l'amour. Et par les temps qui courent, on a besoin de ça. On a besoin de partager.
Alors, ce n'est pas le premier seul en scène que vous avez fait, puisqu'il y avait un autre qui s'appelait précédemment La Lionne de Belfort, que vous avez joué quand même plus de 800 fois, excusez-moi du peu. C'est pas rien.
Non, mais parce que j'ai eu de la chance. J'ai fait 8 salles à Paris. Je suis passée au Palais des Glaces, au Théâtre du Gymnase, au Sentier des Halles, au Point Virgule, au Théâtre de la Main d'Or. Et puis j'ai joué un petit peu partout. Et c'est vrai que je suis très connue dans l'Est de la France parce que la Lionne de Belfort, ce événement m'a programmée dans les plus grandes salles.
Il devait y avoir un moment parce que ce événement, quand même, qu'il commence un peu à avoir un âge certain.
Oui, mais il était encore assez frais il n'y a pas si longtemps que ça.
Bon. Tant mieux pour Macron qui l'a rejoint, alors.
Mais en tous les cas, Là, dans Nathalie Boileau donne tout sauf la recette, je parle de notre époque où tout va trop vite, même si on était cisaillé par la crise sanitaire, par le Covid. Mais je me rends compte que même après ce temps suspendu, la vie a repris et je me rends compte que les gens n'ont pas le temps. Il y a une espèce de... tout va très vite. Alors moi, je parle de nous, les nanas. J'inclus les hommes. C'est pas du tout un spectacle féministe à outrance, parce que moi, j'aime les hommes et je trouve que les hommes et les femmes, on est fait pour se rencontrer. D'ailleurs, dans mon spectacle, les hommes adorent et les femmes en raffolent. Parce qu'en fait, je balaye un petit peu plein de sujets du quotidien qui nous concernent. Et puis, surtout, j'ai beaucoup d'autodérision, je me moque énormément de moi. Et je pense que c'est ça qui plaît aussi, parce que je pense qu'en fait, le rire, c'est ce qui peut nous sauver. Moi, pour moi, en fait, je continue le combat, même si on est dans une période très difficile. Mais moi, mon arme, c'est pas le nucléaire. Moi, mon arme, c'est le rire, parce que je pense que le rire, c'est ce qui peut nous sauver. Enfin bon, ça c'est...
Il nous faudra peut-être un peu plus que ça, mais c'est déjà un bon début. Ce spectacle, Nathalie, c'est vous qui l'avez conçu entièrement, qui l'avez écrit ?
Oui, je l'ai écrit. Bon, j'ai eu un collaborateur qui m'a donné quelques pépites, un monsieur formidable... mais qui est très discret et qui veut même pas que je parle de lui, mais c'est un grand artiste qui a peut-être plus de talent que la plupart des artistes qu'on connaît. Et ce monsieur, ben, je lui dois beaucoup parce qu'il m'estime énormément. Et puis, bon, il y a Gilles Galliot qui a fait ma collaboration artistique. C'est un metteur en scène qui a travaillé avec Légitimus, Anne Roumanoff. Anne Roumanoff, d'ailleurs, dont j'avais fait la première partie de La Lionne de Belfort. J'avais fait la première partie avec La Lionne de Belfort de son spectacle et j'avais totalement triomphé. Et d'ailleurs, les Chevaliers du Fiel m'avaient coproduite au Festival d'Avignon avec La Lionne de Belfort. Mais ça remonte, c'est dans les années 2014-2015. La Lionne de Belfort que j'ai jouée jusqu'en 2019, en fait. Fin 2018, début 2019. Mais j'ai hâte d'arriver à Toulouse parce que je ne sais pas, les Toulousains, moi je les trouve déjà, rien que quand je les entends parler, ils m'enchantent. Ils me font rêver. Voilà.
Et c'est les Toulousains aussi, c'est l'accent, d'ailleurs. C'est l'accent qui vous fait rêver.
Ouais, mais ça fait tellement de bien, je sais pas. Il y a un côté vraiment... Moi, si je pouvais, je vivrais dans le sud ou dans un lieu comme Toulouse.
Il ne tient qu'à vous. Venez. Toulouse est une ville assez riche pour ses théâtres, ses spectacles. Il y a une très grosse offre, donc vous serez certainement la bienvenue. Une question me vient. Là, j'ai noté dans votre bio que vous avez démarré par des études de psychologie. Vous avez fait un DEA de psychologie. Ça vous sert aujourd'hui pour écrire ce type de spectacle ?
J'ai même un DESS de psycho, parce que moi, je suis un peu boulimique. Mais j'avais tous mes diplômes à 22 ans et j'avais commencé à travailler, à tourner au cinéma avant d'avoir mes diplômes. J'ai toujours refait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que j'ai conscience que la vie est courte et que nous avons un temps très limité. Donc, j'essaye de la manger par tous les bouts. Et en fait, pour répondre à votre question, mes études, évidemment, ça m'a certainement permis d'avoir un sens de l'observation, une réflexion, et ça m'a certainement donné des armes pour me défendre et puis peut-être pour mieux cerner la nature humaine. Parce que c'est ça qui est intéressant, parce que dans ce spectacle, je parle quand même de nous, les hommes, les femmes, qui nous débattons dans le quotidien, et j'insiste sur le fait, même si j'ai aucune leçon à donner, mais qu'en fait, le truc le plus important, c'est de continuer à rêver. J'ai des messages importants dans mon spectacle. Hein. Je parle de sujets profonds. J'ose même aborder des choses qui ont du poids, qui ont de la valeur, que tout le monde n'ose pas aborder. Mais je pense qu'en fait, pour moi, la chose la plus importante, c'est de partager, c'est de rire, parce qu'on est dans un monde où on est tellement isolé avec maintenant nos téléphones, nos tablettes, on partage plus comme on a eu partagé. Et à mon avis, c'est ce partage-là qui peut sauver l'humanité. Vous allez dire, je suis très utopiste, hein, mais bon.
Mais il leur faut de l'utopie, sinon c'est trop triste. Et ben, votre spectacle a l'air assez décapant, d'après ce que j'ai lu. Quelqu'un dit que c'est un spectacle dithyrambique, un journaliste menait tambour battant, donc ça doit vous épuiser. J'imagine qu'un seul en scène, c'est beaucoup plus compliqué physiquement que tourner sur un film ou peut-être le théâtre.
Ah ben moi, je vais vous dire, honnêtement, là, ce que je fais, c'est une performance. Mais en fait, vous savez, maintenant, je suis plus... beaucoup de gens de métier ont beaucoup de respect pour moi parce qu'ils voient que je continue le combat parce que j'ai beaucoup de collègues qui ont arrêté parce que moi, si vous voulez, je suis pas une inconnue, mais je suis pas une grosse vedette, je suis pas comme les chevaliers du fiel.
Ils sont surtout connus dans leur région essentiellement quand même. On est indulgents d'ailleurs même pour eux.
Je vous adore.
Il y a parfois quelques facilités chez eux, mais bon, on s'y retrouve tellement dans leur spectacle.
Voilà, mais c'est ça. Mais moi, en tous les cas, oui, vous avez raison, c'est pas du tout reposant ce que je fais. Et quand je tourne à la télévision, là, j'ai tourné il n'y a pas longtemps dans une série pour France 3 qui s'appelait Black and White. J'ai tourné ça juste avant le premier confinement. Et j'ai eu la chance de rester 20 jours sur l'île de Gorée parce que c'était tourné au Sénégal.
C'est pas désagréable, l'île de Gorée, il y a pire, hein, oui.
Oh, génial. Et puis j'avais des scènes avec un beau Sénégalais charmant.
C'est sympa, l'île de Gorée, c'est sympa à l'époque où nous sommes. Autrefois, c'était l'île d'où partaient les esclaves vers l'ouest.
J'ai bien compris. Non, mais je suis allée d'ailleurs voir la maison des esclaves. Bon, il y en a qui disent que c'est une fabrication totale pour faire venir les touristes. Moi, je pense que quand même, il y a un fond de vérité.
Ah, c'est sûr qu'ils partaient de là, après la maison. Elle n'est peut-être pas authentique, effectivement.
Oui, voilà, c'est ça. Ils font payer les touristes pour venir voir ça, mais je pense que voilà, il y a... Bon, mais tout ça, on s'en fiche. Mais par contre, pour reprendre ce que vous m'avez dit, c'est pour ça que je parle de tout ça, c'est qu'en fait, tourner, ben, quand on m'appelle pour interpréter un rôle... C'est vrai que c'est les vacances par rapport à ce que je fais en ce moment. Là, vous voyez, je sors de répétition. Je suis à Paris demain au théâtre du Gymnase. Je vais être assez tôt au théâtre. Je vais finir ma représentation vers 23h. Et je saute dans un TGV jeudi pour arriver jeudi soir pour me préparer vendredi à la Comédie de Toulouse. Et après, je reviens à Paris puisqu'après, je joue toutes les semaines au théâtre du Gymnase. Après, je vais jouer à côté de Bordeaux. Après, je suis déjà programmée à Antibes, dans l'Eure-et-Loire, à côté d'Alençon. Mais c'est génial. Et puis, je me dis que de pouvoir faire ça, c'est une chance extraordinaire. Mais vous avez raison, c'est pas reposant. Hein. Parce que je suis toute seule sur scène.
Et le spectacle dure combien de temps?
Une heure. Hein. Écoutez, ça dépend beaucoup de l'interactivité. Parce que des fois, j'ai un public qui est tellement interactif que ça peut durer 10 minutes de plus, voire un quart d'heure. Mais le bon timing, en général, c'est 1h20. Parce que c'est bien 1h20. 1h20, ça m'est arrivé de faire 1h35 sur des grandes scènes où les gens étaient en délire et tout. Mais les gens me disent qu'ils ne voient pas le temps passer. Moi non plus, d'ailleurs.
Nathalie, on va vous laisser aller vous reposer. Donc, je rappelle, Nathalie Boileau donne tout sauf la recette. C'est vendredi 18 mars à 20h30 à la Comédie de Toulouse, 16 rue Saint-Germier. Je donne même le numéro de téléphone des réservations, 05 34 44 16 70. Et comme je l'ai écrit tout à l'heure sur Facebook, si vous voulez terminer la semaine avec le sourire, avec la banane et dans un grand éclat de rire, et on en a bien besoin à l'heure actuelle, eh bien, allez retrouver Nathalie Boileau vendredi. Merci Nathalie.
Et ils peuvent aller voir des choses sur Internet. Et ils peuvent me suivre sur mon Instagram, mon Facebook,
aujourd'hui, on suit tout le monde à la trace aujourd'hui.
D'accord. Bon, en tous les cas, vive Toulouse. Je vous aime. Et j'ai hâte d'arriver chez vous.
Merci Nathalie et bon succès pour vendredi. Au revoir.
À très vite. À très vite.
Voilà, Nathalie Boileau. Donc.
J'ai beaucoup aimé cette interview, Jacques. Je trouve que cette femme est très solaire et on a vraiment, vraiment envie d'aller voir son spectacle.
Écoutez, il ne tient qu'à vous, vendredi soir, d'aller la retrouver.
Ce vendredi,
elle est parfaite, elle est extrêmement sympathique, d'une grande vivacité. Je pense que sur scène, ça doit effectivement détonner. Tiffaine qui est aux commandes et aux boutons. Tiffaine voulait nous faire une annonce. Tiffaine, on vous écoute.
Oui, alors, à la veille du moment où je vous parle, j'ai appris que Toulouse était jumelée avec Kiev. Et dans ce contexte, le Théâtre du Pavé organise une soirée de soutien le 29 juin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être simple. Ça va être une soirée comme tous les soirs, c'est-à-dire qu'il va y avoir une pièce qui va être représentée. Et toutes les recettes seront reversées à la Croix-Rouge française. Alors, la pièce qui va être représentée, c'est Le Roi se meurt, de Jean Ionesco. Ionesco, pour ceux qui ne savent pas, c'est un grand auteur du théâtre absurde. Et c'est assez pertinent dans le contexte parce que le théâtre absurde, c'est né après-guerre. C'est né en rupture totale avec ce qu'on connaissait jusque-là. Donc, ça se caractérise par une absence de continuité dans la mise en scène. Et on parle beaucoup de l'absurdité du monde. Alors, faut accrocher. Effectivement, c'est un genre qu'il faut apprécier. Mais là, c'est mis en scène par Francis Azéma. Et on va retrouver un petit peu des noms qu'on entend, qu'on a déjà entendus dans cette radio. C'est Adrien Boisset et Lucie Roth. Alors, eux qui ont joué dans une mise en scène du diptyque de Marius et Fanny, de Marcel Pagnol, que vous pouvez retrouver, dont vous pouvez retrouver l'interview.
Et on a aussi entendu Francis Azéma, parce que je l'ai eu en face de moi avec Francis Fourcoux quand ils ont tourné sur... Il a joué le rôle de Jean Jaurès formidablement bien.
Oui, c'est des noms, en fait, on a l'habitude de les retrouver dans cette radio. Et un autre nom que, pareil, vous avez l'habitude d'entendre, c'est Denis Ré, qui, pareil, va jouer et qui a aussi mis en scène et interprété un texte de Romain Gary qui est L'angoisse du roi Salomon. Donc j'ai pu aller voir cette représentation et, pareil, pu l'interviewer. Et je profite un petit peu du moment que je parle un petit peu de bord de scène pour annoncer les deux prochains. Il y en a un qui parlera de Médée M. Jason, qui est une représentation de la comédie Vorace, donc qui parle, c'est un nouveau regard sur le couple de Médée et Jason et de L'angoisse du roi Salomon, donc, que je viens d'évoquer. En conclusion, si vous avez envie d'aller voir Le Roi se meurt de Jean Ionesco, c'est du 29 au 3 avril, mais le mieux, ça reste quand même le 29, parce que justement, ça permettra de soutenir l'Ukraine.
Voilà, très
c'est
bien.
C'est noté, merci beaucoup,
merci,
Tiffaine.
Merci, Tiffaine. Et on rappelle votre émission Bord de scène, bien sûr, donc, que vous retrouverez sur l'antenne et dans les podcasts que vous irez pêcher si vous avez le goût de l'écouter. On va faire une première pause musicale. On a beaucoup parlé. On va écouter un peu de musique, Irène.
C'est à mon tour, c'est ma pause musicale.
Ah non, c'est la mienne.
Ah.
Normalement, je passe en premier. Donc, comme je tiens le micro, j'annonce la mienne. Ah, moi, je vais vous faire entendre Daniel Ebgui. Est-ce que vous savez qui
absolument
c'est
pas.
Daniel Ebgui? Bon, alors voilà, c'est une artiste franco-marocaine qui est née à Marrakech, qui chante dans plusieurs langues, français, arabe, anglais, espagnol, hébreu. Elle est également autrice de romans, de recueils, de poèmes, de lectures de poésie notamment. Et elle est née donc au Maroc, comme je le disais, avec sa famille juive. Elle va se rendre ensuite à Paris, elle va hésiter entre le théâtre, le chant, elle va suivre les cours d'Antoine Vitesse. Entrée au petit conservatoire de Mireille, un peu par là, à la petite porte, parce qu'elle mystifie Mireille en créant un personnage de chanteuse québécoise qu'elle appellera Bergamote, qu'elle n'était pas d'ailleurs. Bien sûr, québécoise, elle n'a jamais mis les pieds au Québec, au moins à cette époque-là. Elle va enregistrer des chansons, elle va prendre un pseudonyme en référence à une poétesse grecque. Il s'agit de Sappho, donc peut-être que... Alors, je pensais que les plus jeunes la connaissaient. Ce n'est pas le cas. J'ai un peu posé quelques questions dans le studio. Mais la poétesse Sappho, non, ça ne leur parle pas trop. Vous allez quand même reconnaître ce qu'elle chante parce qu'elle a repris en 2005 des chansons de Léo Ferré avec un guitariste flamenco. C'était enregistré à Paris au Théâtre Molière. Donc, on retrouve Léo Ferré, on retrouve le guitariste flamenco et surtout Sappho avec le temps.
Avec le temps, va, tout s'en va. On oublie le visage et on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ces gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la main. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son homme pour quelques sous. Devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. L'allée. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard. Et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on aime plus.
Voilà, Sapho, avec
très agréable
le temps,
à écouter.
Voilà, Léo
très
Ferré,
agréable.
Léo Ferré versus Flamenco, c'est effectivement un excellent morceau. On va parler livre, mais peut-être avant... Irène, un peu de cinéma, non ? Je vois que notre amie Marion n'est pas là.
Alors moi, je n'allais vous parler que d'un seul film, et pas des moindres. Un film qui sortira au Gaumont mercredi prochain, donc le 23 mars. C'est « Seule la terre est éternelle » du journaliste François Bunel, que vous connaissez tous, puisque c'est lui qui anime la grande librairie.
Et qui avait fait une interview remarquée à l'époque d'Obama lorsqu'il a sorti son premier tome des mémoires. Il l'avait fait chez Obama. C'était un bon moment d'interview et tout le monde n'a pas interviewé Obama.
Certains.
C'était effectivement, l'homme était très agréable dans la façon dont il avait mené cette interview.
Alors pour tout vous dire, je n'ai pas interviewé Obama et ça ne risque pas parce que je ne parle pas un mot d'anglais, mais j'ai eu la chance et je prends ça pour une chance d'interviewer donc François Bunel avant-hier. Qui est quand même un monsieur exceptionnel. Je voudrais vous parler deux minutes de son film et après j'aimerais qu'on passe...
On passera quelques morceaux.
Quelques morceaux de l'interview. Alors le synopsis de son film, c'est un homme qui rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa vie qu'il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une autre histoire de l'Amérique. À travers ce testament spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à l'essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet homme est l'un des plus grands écrivains américains. Il s'appelle Jim Harrison. Alors, le film documentaire de François Bunel est un grand saut dans l'intime de l'écrivain, une interview en image, telle une biographie. C'est sans filtre. On sent Jim Harrison en totale confiance parce qu'il se livre de façon tendre et sincère devant la caméra de M. Bunel qui n'intervient absolument pas. Alors là, ni lui, ni même sa voix ne sont présentes dans le film. C'est un film qui est vraiment d'une pudeur extrême. Les images sont merveilleuses. Les grandes plaines américaines dans toute leur splendeur. Les musiques parfaites, les musiques américaines vraiment parfaites. C'est un long métrage, il fait 1h52, mais c'est un film qui, dès les premières images, nous apprend à donner le temps au temps dans un monde qui va si vite aujourd'hui. C'est un film, on pourrait presque dire, contemplatif, très long. Je pense que ce film ne s'adresse pas à tout le monde, et pourtant, il faut, si vous ne connaissez pas Jim Harrison, il faut y aller pour découvrir. Je ne sais pas, Jacques, si vous avez déjà eu l'occasion de lire cet auteur.
Non seulement je l'ai lu, mais je l'ai rencontré. J'ai eu cette
Alors, c'est une chance effectivement inouïe. C'est un film qui a été tourné en 2016, puisque cet homme est mort en 2016. Et alors, c'est magnifique, je crois qu'on peut le dire quand même. Il est mort d'une crise cardiaque en écrivant un poème. Voilà, je pense qu'on peut écouter quelques minutes de l'interview sur le film avec François Bunel.
Alors, peut-être la première question qui me vient à l'idée, vous avez certainement dans votre bibliothèque une foultitude d'immenses écrivains, etc. En fait, Jim Harrison, pourquoi ? Alors, je ne parle pas de la qualité de son écriture, évidemment, mais par contre, c'est un vrai choix.
Ouais. Peut-être parce que je ne voulais pas faire un documentaire sur un écrivain. Et à partir de là, il fallait trouver la personne ou le sujet. Et je m'étais dit, je fais plus de documentaires sur les écrivains. J'en ai fait quelques-uns pour France 5. J'en reçois des écrivains régulièrement. Je me suis dit, il va peut-être falloir que je fasse autre chose. Et Jim faisait partie de ceux qui me disaient, de toute façon, il ne voulait pas de documentaire sur lui. À chaque fois, quand j'avais eu l'idée de faire un doc qui lui serait consacré, il m'avait dit non, très mauvaise idée. Descends à la cave, ça va te chasser les idées qui sont manifestement brumeuses et reviens quand tu auras autre chose à dire. Et donc je m'étais dit, ok, très bien, plus de documentaires sur les écrivains. En revanche, j'avais depuis longtemps envie de faire un film qui soit un film sur la nature et qui raconte notre rapport à la nature. C'est ça, mon obsession première. Et qui raconte aussi ce qu'on perd, nous, dans les villes, aujourd'hui, ce qu'on perd avec la force de l'habitude, ce qu'on perd quand on oublie notre part de sauvagerie, qu'on soit un homme ou une femme, et puis qui répond aussi à la question, mais c'est quoi être un homme ou c'est quoi être une femme? En gros, c'est quoi vivre? Donc en fait, j'avais tout un tas d'idées qui me travaillaient. Et assez rapidement, comme je retourne à Jim Harrison, comme on retourne à une source pour y trouver des idées, des solutions, qu'on écoute aussi comme on écoute un bon album qu'on aime bien et qui vous rafraîchit et vous inspire, à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est évident. Tout ce qui répond à la question que je pose se trouve dans son œuvre. Ralentir, partir à la pêche, se mettre sur une rivière et considérer que c'est ça le mouvement de la vie, ça vous évite de regarder en arrière et de vous auto-apitoyer, ce qu'on a quand même tous à un moment ou à un autre dans notre vie tendance à faire. Faire des grands repas avec les copains, se perdre, considérer que pour aller du point A au point B, la ligne droite est le meilleur moyen de se planter, mais que par contre les zigzags, les détours, les petits chemins, ça c'est intéressant. Tout ça est déjà dans l'œuvre de Jim. Donc finalement, peut-être que ce sera lui le fil conducteur. Et du coup, on quittait l'idée d'un film sur Jim Harrison pour faire quelque chose qui soit un film sur la nature, raconté par un type, Jim, dont le métier est de raconter des histoires sur notre reconnexion au lien naturel. Et voilà. Et donc ça peut sembler un peu digressif. Mais c'est vraiment comme ça que moi j'ai pensé le film dès le départ et que je lui ai présenté. Et après avoir dit non à 4 reprises quand il s'agissait d'un portrait classique d'écrivain, et d'ailleurs, ce qui me rassure, c'est qu'il a dit non à tout le monde. Il a dit non aux Américains, aux Canadiens, à d'autres productions. Jim me dit, ah bah tu vois, quand tu veux. Et son grand truc, c'était toujours de dire, il y a une phrase que j'adore chez lui, il dit, il n'y a pas de vérité. Voilà, comme vous, on est journaliste et donc on est toujours un peu obsédé, je pense, par cette question-là. Qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce qu'on doit raconter ? Jim me disait, mais enfin, c'est désespérant quand même. Encore un truc de journaliste français, ça, la vérité. Mais François, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des histoires. Et la vraie question, c'est quelle histoire tu vas raconter et surtout, comment tu vas la raconter ? Et c'est un truc qui m'a bloqué pendant 10 ans. C'est-à-dire que j'allais chez lui, on se connaissait depuis très longtemps. Et je me disais, d'accord, très bien, mais j'en fais quoi de ça? Ben jusqu'à ce que tout ça s'organise, comme je viens de vous le dire. Et donc Jim arrive, si vous voulez, dans le film, presque pour moi comme un acteur. J'écris un synopsis qui est ça, qui est l'histoire d'un type qui rentre chez lui à la fin de sa vie. Il l'a brûlé par les deux bouts, il s'en fiche un peu. Il sait que la fin est sans doute pas très loin, mais après tout, c'est juste la logique de la vie. Comment on dédramatise tout ça? Comment on donne du sens? En revenant à la nature. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, il va nous le montrer. Et on va le filmer dans sa nature, c'est-à-dire à la pêche, en marchant, dans la forêt, au volant d'une voiture qui traverse 7 ou 8 états, et avec Janis Joplin à fond, parce que quand même...
Oui. Hein, on ne peut pas rouler sans musique.
Bah non, et puis on ne va pas mettre le cours de la bourse, hein, quand même.
Non.
On est justement là pour échapper à tout ça.
Voilà, Irène, donc votre interview de notre camarade Bunel, je ne sais jamais comment il faut
François
le dire.
François Bunel, tout simplement, voilà, que j'espère on retrouvera dans son intégralité
dans
bientôt
temps,
sur le site de la radio, absolument. Bonsoir Marion.
Et bonsoir Jean-François qui l'assiste, ils viennent à deux et puis peut-être après il n'y en aura plus qu'un. Enfin bon voilà, ça va, ça vient, ça vit. La Tout Ad Hoc, notre librairie de l'Hostal d'Occitanie et ses livres occitans.
Et oh, des libres occitans. Et encaro, a queste cop, encaro, sera Joan Frances qui vous va présenter une librairie et est elle qui l'a causite.
Allez Jean-François, c'est à vous.
Adieu. Alors, j'ai causé un livre qui s'appelle La Montagne Blabe, la Montagne Bleue. Donc, c'est une conte illustrée, bilingue, donc utilisée en langue russe et en partie en français. Et l'auteur est Edouard Monod. Et donc, ce conte est paru quelques mois déjà, hein, il est paru il y a quelques mois, à la édition Edite-moi. Donc, espuleu pe fans tre las 6 ou 7 ans à peu près, mas plai bilent omen de partecha ambe d'adultes. Plutôt pour les enfants à partir de 6-7 ans.
Et nous vous comprenons, ne traduisez pas, mon cher Jean-François, nous vous entendons.
Ah bon.
Nous sommes à l'Hostal d'Occitanie, donc quand même.
Bon, va plaire. Alors, vous vous contez un petit peu l'histoire en quelques minutes. Donc, c'est l'histoire de Mifune, un buscatier, un bûcheron, qui s'en va pes bosques après une nuit de tempeste. Et va rencontrer trois bestios, cadune dans une situation périlleuse, et leur ajudera à tous. Et tous les trois lui balayeront une présence pour l'ajuda, une partie de leur cos, qui lui permettra de se cambier en bestio si il fait besoin. Et donc, Mifune fassera puis le raubement, l'enlèvement de la drôle Barbara pour le prince. Et après maintenir Benimen, Mifune et le prince feront Batesta à la cime de la Montagne Blabe, le titre del conte. Et bon, c'est pas ce que c'est de passer. Et comme serait le péché de vous conter à la fille, ma reste ici. Ma de retenir est un conte qui puso ses inspirations à la surgo des contes traditionnels, tout en y ajustant une idée de modernité, avec par exemple une brève description de la ville à travers l'usage des buscatiers, ou encore un passage qui mentionne un concert de heavy metal, mais ne disait pas mai.
Voilà, Jean-François, bravo, c'était très bien. Un mot à rajouter peut-être
Quant costo à quel livre?
14 euros.
Oh, bah, tout le monde peut se l'offrir quand même.
Des ségures. Et des ségures est disponible là-dessus.
Alors on redonne l'adresse peut-être.
Unz Carriero Malcusina à Toulouse.
Voilà une librairie où vous retrouverez beaucoup de livres en langue occitane, mais pas que. Mais il y a quand même un fond extrêmement important.
Il y a aussi les fameux livres de Jacques Lavergne que vous pouvez trouver.
toute l'année. Ça y est, ils ont été traduits en occitan.
Mais là, oui, il y a la queue devant la librairie.
On ne me dit pas tout.
Merci Marion, merci Jean-François. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau livre occitan. Et là, on va quasiment passer sans transition sur un autre livre, mais vous pouvez rester avec nous puisque nous allons parler avec Pascal Sabatier que nous avons, je pense, en ligne. Alors on va parler d'autres livres et ça en français. Pascal, vous êtes avec
nous. Bonsoir Irène, bonsoir Jacques.
Bonsoir Pascal.
Alors, de quoi est faite la chronique aujourd'hui de Pascal Sabatier?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux romans de la rentrée littéraire de janvier, qui, à mon avis, fonctionnent bien. En tout cas, la bibliothèque, ils fonctionnent très bien, et pour cause, ils sont excellents tous les deux. Le premier, c'est Connemara, de Nicolas Mathieu, qui est édité chez Actes Sud.
Je l'ai lu, je ne vous en dirai que du bien, que du bien.
Voilà, et le second, c'est La décision de Karine Thuil. Alors, je commence par le roman Connemara de Nicolas Mathieu. À l'aube de leurs 40 ans, Hélène et Christophe se retrouvent. Ils se connaissent, c'était il y a longtemps, au temps du collège, des premières amours et de l'avenir à choisir. Ils ont chacun fait leur vie. On peut dire que selon certains critères, Hélène a réussi. Brillantes études, poste haut placé dans une boîte de conseil, un mari issu de la bonne société, deux filles. Après des années à Paris qui se sont soldées par un burn-out, la famille est venue s'installer près de Nancy. Christophe, quant à lui, n'a jamais quitté la région. Il est séparé de la mère de son fils, son amour de jeunesse. Il jongle comme il peut entre son boulot de commercial et sa vie personnelle. Il est retourné vivre chez son père qui s'occupe beaucoup de son petit Gabriel et pour se détendre, il peut compter sur ses copains de toujours. Quand Hélène retrouve Christophe sur les réseaux sociaux, c'est ses 15 ans qu'elle retrouve. Elle repense à toutes ces années-là. Christophe était la star locale du hockey sur glace à l'époque qui la faisait fantasmer. Il y avait Charlotte, sa meilleure amie qu'elle a perdue de vue, ses parents dont elle s'est éloignée et la seule idée qu'elle avait en tête à l'époque qui était quitter ce milieu de losers, d'esprit étroit, sans autre ambition que des vacances d'été dans une cage à poules de la Grande Motte. Hélène et Christophe vont s'écrire, puis se revoir, puis devenir amants, et puis je vous laisse découvrir ce qu'il adviendra. Alors, actuellement, Nicolas Mathieu est sûrement l'écrivain, en tout cas moi je le vois comme ça, qui a le regard le plus aiguisé sur notre société et les différentes fractures qui la divisent.
Un de nos anciens Goncourt, pas si ancien que ça d'ailleurs, et justement sur des questions sociales aussi.
Tout à fait. Il avait écrit déjà Aux animaux la guerre, qui était un polar qui avait été édité chez Actes Noirs à l'époque. Et puis il avait eu le Goncourt Pour leurs enfants après eux, qui était déjà, oui, un roman très social. Il scrute notre époque à travers ses failles, ses injustices. Et puis il ausculte le territoire aussi beaucoup et ses différentes composantes. Alors, d'un côté, il va y avoir la France des immeubles haussmanniens, qui sont le siège de grandes réussites. Et puis de l'autre, il va y avoir cette France des zones pavillonnaires qui ont la réussite plus modeste, qui sont reléguées à la périphérie de presque tout. Et cette classe moyenne, il la connaît bien en fait parce qu'il en vient. Et même s'il a souhaité en sortir, hein, on peut dire que c'est un transfuge de classe, Nicolas Mathieu, il la décrit toujours avec une certaine tendresse. Il n'y a pas d'animosité, mais il en parle beaucoup et bon, on sent que c'est vraiment l'histoire de sa vie derrière tout ça. Et en revanche, c'est sans concession qu'il décrit le milieu de la com et du conseil. Alors là, il en fait un monde superficiel dont l'unique moteur va être l'argent. Je le cite, il dit un consultant, c'est un mec qui t'emprunte ta montre pour te dire l'heure et qui se tire ensuite avec ta montre. Donc ça résume bien.
C'est ce qu'on dit dans les grands cabinets anglo-saxons où il y a des consultants.
Voilà, il fustige les anglicismes, la novlangue, tous les termes à la mode du type impacté, priorisé. Il dénonce le vent et la poudre aux yeux que vendent toutes ces boîtes au prix fort et dont nos dirigeants semblent de ne plus pouvoir s'en passer. Voilà, son écriture est très belle, elle est magnétique, elle est précise, elle est riche mais pas grandiloquente du tout. Il a un sens de la formule à nul autre pareil, je trouve, des mots qui marquent. Moi, je les ai relus plusieurs fois pour m'en imprégner, tellement ça sonne juste. Et puis, son écriture, moi, je la trouve très cinématographique. Vraiment, tout ce qu'il dit, on le voit, C'était Aux animaux la guerre a été adapté en série, qui était une série de très très bonne qualité, avec Roche Dizem, je me rappelle. Et je pense que celui-là, ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse l'objet d'une adaptation dans pas longtemps, quoi. Voilà, et puis après, Connemara, c'est quand même un roman d'amour, hein, c'est l'histoire d'un homme, d'une femme, c'est d'un réalisme rafraîchissant, je dirais, mais d'une lucidité inéluctable. Voilà, c'est un très gros coup de cœur. Vraiment, Connemara, n'hésitez pas, précipitez-vous. Et le second roman que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est La décision de Carine Thuil. Alors Carine Thuil, elle écrit beaucoup, elle s'est souvent emparée de sujets de société. Son avant-dernier roman, c'était sur une histoire de viol, je crois me rappeler. Et là, je veux dire que ce sujet ne pouvait pas vraiment lui échapper. C'était que faire des combattants, ou pas d'ailleurs, qui sont partis en Syrie et qui sont revenus en France, des hommes, des femmes, des enfants. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens une fois qu'ils sont là? Et ça raconte l'histoire de Alma, qui est juge d'instruction antiterroriste. Ça se passe en 2016. Elle doit prendre une décision concernant un jeune homme. Ce jeune homme est suspecté d'avoir rejoint l'État islamique. Est-ce qu'il faut le garder incarcéré? Est-ce qu'on peut le libérer sous certaines conditions? Et cette décision, pour elle, va être d'autant plus difficile à prendre qu'elle a une liaison avec l'avocat du suspect, ce qui n'est pas très top. Et comme en plus son couple est complètement à la dérive, elle est quelque peu perturbée, et en même temps, elle a tout à fait conscience que ce choix peut avoir d'importantes conséquences sur son avenir et sur celui des pays, de son pays. Alors, que faire? Voilà, c'est toute l'histoire de ce roman. Bon, Carine Thuil, elle n'a plus à démontrer ses talents d'écrivaine, elle écrit très bien, c'est juste parfait. Mais en plus de cela, elle parvient à nous imprégner du dilemme de cette femme. On est sur le fil du rasoir, on se met à la place de tous ces juges dont la seule décision peut faire basculer des vies, parfois même un pays. C'est un très bel hommage à ces femmes, à ces hommes, qui sont souvent mal jugés par l'opinion publique, je trouve, qui sont pourtant absolument essentiels dans un système judiciaire d'une démocratie. Voilà, c'est un roman qu'on ne lâche pas, il se lit très très rapidement, c'est une héroïne forte, fragile à la fois, enfin simplement humaine en fait. Voilà, une belle réussite aussi. Voilà pour aujourd'hui.
Alors on rappelle quand même les deux titres, Pascal. Alors le premier...
Le premier, c'est Connemara de Nicolas Mathieu chez Actes Sud.
Et le second ?
Et le second, c'est La décision de Carine Thuil, c'est dans La Blanche de Gallimard.
Superbe, merci Pascal.
Merci Pascal.
On vous rend à vos lecteurs, merci, à très bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Allez, pause musicale, nouvelle pause musicale, là c'est le choix de Tiffaine. Tiffaine, je vous laisse le présenter, c'est la vôtre.
Alors moi c'est... Oui, c'est une musique, mais c'est pas tellement une musique. Au-delà de ça, c'est un univers que j'ai envie de vous faire découvrir parce que c'est un univers qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur cette antenne. C'est l'univers vidéoludique. Parce que je vais vous parler de jeux vidéo et donc d'une franchise. Pourquoi je parle de jeux vidéo? Parce que pour moi, c'est sous-estimé parce que ça peut apporter énormément de choses et notamment. Le jeu, on sait que c'est un vecteur d'apprentissage, donc dans la continuité, le jeu vidéo également. Et l'un des exemples que j'ai choisi, c'est une franchise que j'aime énormément, qui est la franchise des Assassin's Creed, qui sont développés par les studios Ubisoft. Si jamais il y en a qui ne connaissent pas, c'est super simple, en fait, c'est toute une franchise avec énormément d'épisodes, et ça nous permet d'interpréter un membre de la confrérie des assassins qui est inspiré des Ashishiyun, qui ont vraiment existé, qui sont nés au Moyen-Orient. Et ce que j'aime énormément avec cette franchise, c'est qu'il y a une énorme importance historique. Les développeurs s'entourent d'historiens, de sociologues, pour qu'il y ait le plus de réalisme possible. Et ce sont des jeux qui sont extrêmement longs, extrêmement fournis. Donc c'est une vraie immersion historique. Je prends notamment pour exemple un épisode auquel je joue actuellement, qui est le dernier qui est sorti, qui, par exemple, nous embarque dans la guerre du Péloponnèse. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se balader dans tout le monde grec et on rencontre des habitants, on rencontre la vie quotidienne, on rencontre des personnages historiques. On peut penser à Pythagore ou Socrate ou d'autres qu'on connaît moins. Donc là, il y a une vraie immersion historique. Et le morceau que j'ai choisi, c'est un morceau d'un autre opus qui vient du quatrième opus qui nous transporte aux Caraïbes au XVIIIe siècle, en plein âge d'or de la piraterie. Donc là, on peut jouer en compagnie de personnages historique, pareil, que peut-être vous connaissez ou peut-être pas. Donc,
et les images, je rajoute, sont superbes.
Et les images voilà, sont superbes,
c'est
effectivement.
C'est vraiment extrêmement bien fait.
Merci Jacques, je suis ravie que vous complimentiez cette franchise.
Je l'aime bien, oui. Je n'y joue pas, mais je l'ai regardé souvent. Et alors, j'en profite pour dire que dans quelques temps, nous aurons un Thomas qui nous fera quelques émissions sur justement ce type de jeu. Alors, peut-être qu'il nous reparlera. Tu es là, peut-être on écoute
Oui, et l'opus, c'est le quatrième, Les Pirates. Voilà, on y va.
Voilà le choix de Tiffaine.
Très sympathique, Tiffaine.
Oui, oui, j'aime bien cette musique. Mais écoutez, on va rester un peu, parce que les séries c'est, dont on va parler maintenant, finalement, ça rejoint un peu ces jeux, il y a un peu le même état d'esprit. Et on a notre ami Grégory Combe, toujours à Paris, mais qui nous envoie sa chronique.
Et que je remercie.
Voilà, et je vous propose que nous écoutions Grégory nous parler d'une série qu'il a dû regarder et étudier avec son acuité habituelle.
Chère Irène, écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler d'une série que je viens de finir. Alors, je vous rassure, ça sera sans spoiler. Je viens de finir une série qui est sur Netflix, il y a les 5 saisons, et je vous la conseille fortement. Ça s'appelle The Last Kingdom. Alors, je vous préviens, Irène, vous allez vous dire, bon, il a adoré la série, il va être positif. Non, je vais énormément râler, parce qu'en fait, c'est ça le problème avec les très bonnes séries, avec les choses qui sortent. Ça nous renvoie sur le fait qu'en fait, la plupart du temps, on se mange de la médiocrité et de la nullité. Et quand on finit The Last Kingdom, on se dit, mais c'est ce que je devrais avoir droit à chaque fois que je donne mon temps à la télévision. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, The Last Kingdom, c'est quoi? C'est une série télévisée britannique. Donc, juste petite parenthèse, pendant que nous on se mange Louis la Brocante, pendant qu'on se mange Camping Paradis, les Anglais, ils font des séries télé de vikings badass qui mettent des gros coups d'épée et des gros coups de hache à des soldats anglais, pendant que nous, on se mange les trucs tout pourris. Donc déjà, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment les productions françaises se sont dit on va consacrer, alors que l'histoire française est quand même pas trop mal, hein, sur ces sujets-là, on va consacrer tout notre argent à raconter l'histoire d'un camping à la con, pardonnez-moi de le dire, ou de faire l'étuche 28, et ainsi de suite, alors que les Anglais, ils nous racontent des trucs comme ça. Bref, c'est l'adaptation des romans Les Histoires Saxonnes de Bernard Cornwell. Alors vous allez me dire, encore un truc de viking? Oui, je suis d'accord avec vous, Irène, c'est la mode des vikings. Depuis la série Viking, on mange du viking à toutes les sauces. À un moment, c'était la mode des zombies, donc on a eu des trucs de zombies partout. C'était la mode des vampires, on a eu les vampires partout, et là, on a les vikings. On a eu les vikings, on a les vikings en jeu vidéo, on a les vikings en bande dessinée, on a les gens qui avant sûrement devaient faire du tuning pour s'occuper, se sont mis à se coiffer comme des vikings, pensant qu'ils seraient virils, alors qu'ils font en fait juste un petit peu sale. Donc effectivement, tout le monde veut être viking. Mais contrairement à la série Viking, qui a commencé très bien et qui finit dans une médiocrité, je dirais même une nullité crasseuse, avec une fin qui n'a plus de sens et qui ne voulait raconter plus rien, The Last Kingdom est une production qui est logique du début à la fin. Des choses qui vont être murmurées, qui vont commencer à être mises en place dès le premier épisode, trouveront leur conclusion de façon logique dans le dernier épisode. Des personnages qu'on va quitter à des moments. Alors, il y a ceux qu'on quitte parce qu'ils se mangent un gros coup de hache dans la tête. Bon, ceux-là, bah, ça c'est fait. Mais ceux qu'on va quitter parce qu'ils choisissent une autre destinée, on va les revoir à d'autres moments et de façon clé. C'est-à-dire que si un personnage s'arrête d'être un personnage important, c'est pas pour rien. C'est pour revenir à un autre moment, pour être déterminant. Donc, on a un scénario extrêmement bien fait et qui a compris son média. C'est-à-dire que le problème des séries télé aujourd'hui, c'est qu'une série et malheureusement des films au cinéma à cause de la recette Marvel qui ne savent pas comment conclure. En fait, on a des séries télé qui disent tant que ça marche, on produit. C'est ce qui s'est passé avec Viking. Tant que ça marchait, ils sortaient des trucs, quitte à se perdre et quitte à ne pas avoir vraiment de fin prédéfinie. Et c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui avec les franchises Fast and Furious 18, Spider-Man versus Hulk versus je sais plus qui, Batman 45 plus sombre, de plus sombre, de plus sombre, quoi. On a eu le Batman rigolo, on a eu le Batman sombre, là on a le Batman dépressif. Donc en fait, on sait pas comment s'arrêter. Alors que The Last Kingdom, ils s'arrêtent au plus haut de leur gloire. C'est-à-dire au moment où vraiment ça marche le mieux. Ils ont décidé d'arrêter à ce moment-là et c'est tout à leur honneur. Parce que justement, ils nous donnent une fin satisfaisante et il n'y a jamais l'épisode ou la saison de trop. Alors ça parle de quoi, The Last Kingdom? Parce que je râle beaucoup, mais je donne pas le fond. Ça parle de quoi? En fait, c'est à la fin du 9e siècle. Dans ce qui était à l'époque l'Angleterre, mais qui en fait était plusieurs petits royaumes, ben on a les vikings qui arrivent, qui débarquent pour violer, tuer. Alors c'est ça aussi qui est bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a tendance à glorifier les vikings, en disant ils sont formidables, ils sont incroyables, vive les vikings, super, enfin c'était des violeurs et des tueurs, alors remettons le truc en place. Après c'était une époque, c'était une autre époque, hein, on s'amusait différemment, mais effectivement c'était pas des gentils quoi. Et cette série, elle nous montre effectivement de façon assez neutre leur façon de vivre, leurs croyances, parce que c'était par rapport aussi à leurs croyances qu'ils faisaient tout ça, sans les glorifier, mais en nous l'expliquant. Et effectivement, il y a, entre guillemets, des héros des deux côtés. Et justement, Uhtred, donc le héros, Uhtred, fils de Uhtred, hein, c'est facile à retenir, Uhtred de Bebbanburg, qui est l'endroit d'où il vient, est en fait le fils d'un lord anglais qui va être spoilé de l'ensemble de ses biens, et dont le but va être à la fois de tenter de retrouver les biens qu'on lui a volés, mais aussi de rallier ce qui s'appelle le dernier royaume, The Last Kingdom, qui est en fait le dernier royaume à tenir contre les vikings, avec Alfred le Grand, figure historique, donc quand même c'est une série qui se base sur beaucoup de faits historiques, qui a lutté contre les vikings. Et ce qui est intéressant, c'est que Uhtred, il est anglais, il a été élevé par un lord anglais, mais il a aussi à un moment été élevé par les vikings. Donc on va vraiment avoir dans ce personnage l'affrontement de ces deux cultures. Et on a à côté Brida, jouée par Emily Cox, qui a un peu le même parcours que lui, sauf qu'à un moment, leur chemin se sépare. Et en fait, c'est le reflet l'un de l'autre si leur choix avait été différent. Et je dirais, leur opposition est extrêmement intéressante. Donc effectivement, je vais pas aller plus loin, mais le casting est très bon. La réalisation est excellente, avec pas toujours des moyens incroyables. Mais ils arrivent à faire des choses extrêmement convaincantes, des batailles de très bon niveau. Le scénario, autant politique que d'aventure, parce qu'il y a aussi, ce n'est pas qu'un Game of Thrones, en fait, c'est pas que de l'intrigue. Il y a des grandes batailles, il y a des intrigues politiques, et il y a l'aventure au sens premier du terme, avec la bande à Uhtred qui partent réaliser des missions, un peu comme dans un jeu de rôle. Donc, tout ça, mélangé dans un excellent équilibre, nous donne une épopée. Et une épopée que moi, je n'ai pas vue depuis très longtemps à la télé. Et c'est pour ça que c'est aussi bon. C'est qu'en fait, au final, on se demande, mais on suit ces gens-là, c'est une histoire qui part classiquement, et on suit cette épopée comme un grand récit, comme on aurait pu suivre le Cimarion, comme on aurait pu suivre les Rois Maudits. Donc c'est une vraie grande épopée que je vous conseille fortement. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'en France, on pourrait avoir les moyens de faire la même chose, et là, les Anglais, ils nous démontrent qu'ils sont largement meilleurs que nous pour raconter des histoires, et notamment pour raconter leur histoire. Et quand on voit la richesse de l'histoire française, moi j'aimerais qu'un jour il y ait un réalisateur qui s'empare de ça et qui nous fasse un petit peu la même chose. Donc, je conclurai, Irène, je vous conseille fortement The Last Kingdom sur Netflix. Vous ne le regretterez pas. Par contre, quand vous allez regarder la télé française, tout aura un goût amer. C'est la faute des qualités des productions anglaises. Je vous remercie.
Merci à Greg. J'ai pas forcément le temps de regarder des séries, mais j'ai bien noté de regarder celle-ci en priorité.
Oui,
je suis d'accord, mais j'ai l'impression qu'en France, on a tendance à rester bloqué à tout ce qui est comédie française et drame. Et j'ai l'impression qu'on n'aime pas le fantastique et qu'on n'aime pas la fantasy. Je sais pas. C'est vrai, une impression.
C'est un genre très très particulier, mais qui a énormément d'adeptes et il y a de très très belles choses. Mm. Mais il faut faire l'effort d'aller vers ce style-là. On est récompensé quand on fait cet effort. Oui. On écoute un dernier morceau musical. Alors, c'est la Carioca. Donc, c'est un choix d'Irène, mais elle vous expliquera après pourquoi ce choix et qu'est-ce qu'il annonce, ce choix. La Carioca.
Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas.
Ce n'est pas un tango ou un cha-cha. Encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça.
You. Dansons la carioca, c'est bien, fais-y tous comme moi. Youpi, avec la carioca, tant pis s'il faut dire aux autres danses. Maintenant que tu danses la carioca, ça tu t'en fiches bien de la polka. Tu n'en veux plus de la rumba, du hula hoop et du cha-cha.
Tous les matins dès le lever, la carioca te fait bouger. Et quand tu danses, chaque petit pas te met en joie pour la journée.
Youpi.
Voilà, cette carioca, Irène, que vous avez choisie, mais vous l'avez choisie parce qu'il y avait une intention derrière tout ça. Laquelle ?
Alors, je l'ai choisie parce que c'est une musique d'un film. C'est la musique, bien sûr, du film La Cité de la Peur, des Nuls, qui a été tourné en 1994. Alors, la carioca, c'est un morceau qui est absolument festif. C'est ainsi que je souhaite mon émission dédiée au cinéma, dont la première sera jeudi demain de 18 à 19h. Et ça sera la musique du générique de l'émission. Alors c'est Alain Chabat et Gérard Darmon qui chantent cette musique. Encore une fois, je l'ai choisie pour le côté festif, tout simplement.
Voilà, eh bien, nous sommes arrivés au bout de cette aventure culturelle très toulousaine, mais pas que.
Et toujours un plaisir de partager ce moment avec vous, Jacques.
Merci à Jean-François, merci à Grégory, merci à Pascal, merci à Marion, merci à Tiffaine qui était aux manettes, mais plus qu'aux manettes. Puisque vous
et merci à vous, Jacques.
Elle a une participation active. Merci à Irène qui est restée sage aujourd'hui pendant cette émission. C'était ma préférence, dont vous pourrez retrouver le podcast ainsi que tous les autres podcasts sur le site d'Esprit Occitanie. Et on espère vous retrouver d'ici une quinzaine de jours pour une nouvelle édition de Ma Préférence. Bonsoir à toutes et à tous.
Au revoir.